Radio Prague, les informations.
La télévision numérique terrestre en Tchéquie au mois d'octobre. L'armée tchèque fait don de ses munitions à l'étranger. Par Uptek, une rave partie de protestation. La télévision tchèque diffusant sur trois chaînes publiques a décidé de lancer la TNT au début du mois d'octobre. Une information provenant du conseil de la télévision tchèque selon lequel les trois chaînes hertziennes publiques actuelles, donc CT1, CT2 et la chaîne info CT24, jusqu'à maintenant la TNT en était toujours au stade expérimental en Tchéquie, diffusée par deux multiplexes. Après la décision de faire don de tonnes de munitions de l'armée tchèque à la Géorgie, le gouvernement, sur une proposition du ministre de la Défense, vient de décider d'envoyer 550 tonnes de munitions pour les armes de poing en Égypte. Il s'agit de surplus de l'armée et cette dernière affirme que faire don de ces munitions dont elle n'a pas besoin revient moins cher que de les liquider d'une manière écologique. Les organisateurs de la rave party Czech Tech qui avait mal tourné fin juillet récidivent. Ils organisent une rave party ce week-end dans la même localité en Bohême de l'Ouest. Son nom, une parodie du nom du Premier ministre Paroubek, la rave se nomme Paroubtek. Les organisateurs assurent que tout sera fait pour que l'ordre ne soit pas violé, mais la rave party aura lieu en signe de protestation contre l'intervention policière contre Czech Tech en juillet dernier. Le ministère des Finances vient de publier une déclaration indiquant que le déficit budgétaire est en baisse. Selon les chiffres envoyés par l'Office des statistiques tchèques à l'agence européenne Eurostat, le déficit est tombé de 5% du PIB en mars à 4,8% actuellement. Une bonne information pour la Tchéquie qui doit baisser son déficit pour entrer dans l'eurozone. L'Australie, à l'exemple de la Nouvelle-Zélande, va offrir aux jeunes tchèques un programme combinant les vacances et la possibilité de gagner de l'argent. L'un des résultats de la rencontre à Prague du ministre des Affaires étrangères Cyril Swoboda et son homologue australien Alexander Downer. La société tchèque Merck SARL n'a rien à voir avec la société américaine Merck & Co. à part le même nom. Elle se sent donc lésée par les informations sur le retrait du Vioxx, un médicament pour le traitement des douleurs des articulations du marché, qui ne spécifie pas qu'il s'agit de la société américaine. L'orchestre symphonique de la capitale Prague et Focal, un des plus prestigieux en Tchéquie, vient de se doter d'un nouveau chef. Il s'agit de Jiří Kout, comme dans le cas de la Philharmonie tchèque dirigée par Zdeněk Marcal, le nouveau chef de FOK. Jiří Kout a passé des années en exil. La météo nous prévoit du beau temps et des températures élevées pour la saison, toujours plus de 20 degrés. Ce beau temps devrait durer jusqu'au week-end. Bonne fête au Yolana, ce jeudi. C'était les informations par l'Inslimanski. Bonne écoute de la suite du programme de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Merci d'être avec nous sur Radio Prague. Voici les grands titres de cette édition. Le président de la République, Václav Klaus, est en visite en Israël. Où en est la Tchéquie à l'échelle des pays de l'OCDE avec son système éducatif? Prague propose une aide à la Nouvelle-Orléans pour la rénovation des monuments ravagés par le cyclone Katrina. Un nouveau festival des musiques actuelles MOVE débute à Prague. Nous vous inviterons à la découverte du labyrinthe des profondeurs du château de Vyšehrad. Très bonne écoute à toutes et à tous. En visite officielle de trois jours en Israël, le président de la République, Václav Klaus, s'est entretenu mardi à Jérusalem avec son homologue Moshe Katsav pour une rencontre qui constituait un des temps forts de son voyage. Plus de détails avec Guillaume Narguet.
Avant de profiter de l'occasion, mercredi, pour visiter le port de Saint-Jean d'Acre, ancienne forteresse des Croisés et Nazareth, et donner ainsi un caractère plus spirituel à un voyage qui poursuit avant tout des objectifs commerciaux, le président tchèque a consacré sa journée de mardi aux traditionnelles formalités politiques et échanges de politesse. Même s'il ne rencontrera pas le Premier ministre Ariel Sharon, actuellement à New York pour le sommet de l'ONU, Václav Klaus a toutefois pu s'entretenir avec son homologue israélien et lui confier que, bien que la République tchèque ne soit pas un acteur clé dans le processus de paix au Proche-Orient, elle allait faire ce qui est en ses moyens pour que l'Union européenne adopte une attitude équilibrée par rapport au conflit israélo-palestinien. La politique de Bruxelles étant parfois considérée par trop pro-palestinienne en Israël. Par ailleurs, Václav Klaus a qualifié le retrait des colons de la bande de Gaza d'initiative décisive d'Ariel Sharon. On l'écoute.
Ta iniciativa podle mého názoru je nadějí, obrovskou nadějí pro Blízký východ. Já jsem byl velmi
Cette initiative est un immense espoir pour le Proche-Orient. Je suis enchanté de mon entretien avec le président Moshe Katsav qui porte un regard très pragmatique sur la situation. Je suis vraiment content que le fondamentalisme recule grâce à des solutions pragmatiques. Nous croyons qu'il est dans le propre intérêt de la Palestine qu'elle réagisse à cela de façon positive. De son côté, le président israélien a affirmé que la visite du président tchèque constituait un élément de rapprochement entre son pays, l'Europe et la communauté internationale. Écoutons les explications de Moshe Katsav.
Nous vivons actuellement au Proche-Orient une période très sensible et d'une importance vitale. L'espoir et les attentes sont grands. Et moi, je crois que la communauté internationale peut contribuer positivement et effectivement à la reprise d'un dialogue de paix entre Israël et l'autorité palestinienne. Je crois qu'une rencontre comme celle d'aujourd'hui au plus haut niveau est très importante pour une meilleure compréhension entre Israël et la communauté internationale. Et la République tchèque a une position de marque en Europe et plus généralement au sein de cette communauté internationale.
Si la République tchèque est considérée comme un partenaire privilégié par Israël, c'est entre autres parce que les relations entre les deux pays sont au beau fixe, et ce malgré même les différentes crises traversées par les deux peuples au cours de l'histoire. Moshe Katsav.
Ce sont des relations chaleureuses que nous entretenons non seulement ces dernières années, mais aussi depuis longtemps, avant même encore qu'Israël n'obtienne son indépendance. Votre premier président, Tomáš Garrigue Masaryk, favorable aux Juifs et au mouvement sioniste, avait visité Israël en 1920. Le soutien militaire de la Tchécoslovaquie en 1948 aux forces de défense israéliennes, pendant la période de la guerre pour l'indépendance, a été crucial, effectif et nous a beaucoup aidés. La reconnaissance d'Israël comme État juif par la Tchécoslovaquie fut très importante, au début, au sein de l'Organisation des Nations Unies et de la communauté internationale.
Les résultats d'une étude comparative annuelle sur le système éducatif dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique qui vient d'être publiée à Paris sont peu flattants pour la Tchéquie. Or, selon la ministre de l'Éducation nationale, Petra Buzková, la situation s'est améliorée depuis 2003, année à laquelle cette étude se réfère. Selon la publication annuelle de l'OCDE Regard sur l'éducation, la République tchèque reste au-dessous de la moyenne en ce qui concerne les dépenses à l'enseignement, les salaires des enseignants et le nombre de diplômés. Les programmes de formation des adultes sont peu répandus dans le pays. Soyons plus concrets concernant ses dépenses pour l'enseignement par élève et parent. La Tchéquie occupe la 24e place parmi les 27 pays examinés. Alors que la moyenne est située à plus de 6% du PIB, la Tchéquie ne dépense que 4,4%. Le rapport constate cependant que les dépenses élevées ne garantissent pas une meilleure qualité en matière d'éducation. En dépit des dépenses modérées, les résultats des élèves tchèques de 15 ans sont parmi les meilleurs dans les disciplines principales. Hélas, la Tchéquie est au bout de l'échelle également en ce qui concerne les salaires des enseignants. Ainsi, le pouvoir d'achat d'un enseignant tchèque du primaire qui enseigne depuis 15 ans est de 4 fois inférieur par rapport à son collègue luxembourgeois. La situation n'est pas rose non plus quant au nombre d'élèves par enseignant, alors que la moyenne dans les pays de l'OCDE est à moins de 20 élèves, dans les classes tchèques elle est 25 élèves. Notre pays est aussi en dessous de la moyenne avec l'éducation et la formation à tous les stades de la vie. La publication fournit au moins un constat positif. 89% des Tchèques ont le baccalauréat, ce qui ramène notre pays à l'une des premières places. Par contre, seuls 12% des Tchèques de 25 à 64 ans sont des diplômés de l'enseignement supérieur. Commentant les résultats de la publication de l'OCDE, la ministre de l'Éducation, Petra Buzková, a déclaré que certains indicateurs ne sont plus vrais aujourd'hui.
Došlo od roku 2023 k poměrně prudkému nárůstu platů učitelů.
Depuis 2003, les salaires des enseignants ont augmenté rapidement, même si je ne suppose que nous ne sommes pas encore au niveau de la moyenne de l'OCDE. D'autre part, il convient de mentionner que le nombre d'heures enseignées est en moyenne beaucoup plus élevé dans les pays de l'OCDE, ce qui peut expliquer aussi les salaires plus élevés des enseignants de ces pays comparés aux enseignants tchèques qui passent beaucoup moins de temps dans les classes.
učitelství učí o dost déle než učitelé češtiny.
Selon la ministre, 6 milliards de couronnes supplémentaires seront débloqués cette année du budget de l'État pour l'enseignement. Concrètement, un nouvel accroissement des salaires des enseignants et à la réforme des écoles supérieures. Bien que la Nouvelle-Orléans, dévastée par l'ouragan Katrina, se trouve de l'autre côté de l'Atlantique, les Tchèques ne restent pas insensibles aux victimes de la catastrophe et organisent une aide qui s'avère bien problématique vu la distance qui nous sépare de l'Amérique. Le gouvernement tchèque a déjà décidé d'accorder aux régions sinistrées une aide de 25 millions de couronnes, quelque 830 000 euros. Maintenant, c'est au tour de la ville de Prague qui veut contribuer, elle aussi, à l'aide internationale. Václav Richter.
Prague, ville historique, se mobilise et cherche la meilleure façon d'aider sur tous les quartiers historiques de la Nouvelle-Orléans. Plus de précisions avec le porte-parole de l'hôtel de ville de Prague, Jiří Wolf. C'est une idée des membres du conseil municipal estimant que la capitale tchèque devrait en tout cas aider la Nouvelle-Orléans. On a décidé en commun avec l'ambassade des États-Unis à Prague de préparer avant le 11 octobre prochain une stratégie fondamentale, c'est-à-dire de spécifier les projets et les domaines dans lesquels Prague serait capable d'aider la ville ravagée. Dans la majorité des cas, il s'agira de travaux spécialisés. On fera appel à des spécialistes ayant réalisé le programme de sauvetage après les inondations catastrophiques de 2002 en Tchéquie. Ce sont donc notamment des conservateurs de monuments historiques et des restaurateurs d'œuvres d'art qui devraient contribuer au sauvetage des monuments historiques et culturels de la Nouvelle-Orléans.
La capitale tchèque elle-même n'est pas encore tout à fait guérie des blessures que lui a assénées il y a 3 ans la crue catastrophique. Bien que la majorité des monuments et des maisons soient restaurés, il reste encore beaucoup de livres précieux et de documents d'archives inondés qui attendent, congelés, la restauration. La capitale a déjà aussi bien progressé dans la construction du système de protection et de parois amovibles le long des quais de la Vltava. Malgré ces travaux coûteux et qui ne sont pas encore terminés, la ville cherche des moyens financiers pour aider la Nouvelle-Orléans sinistrée. Jiří Wolf.
Le conseil municipal de Prague a décidé, lors de sa session de ce mardi, de réserver à l'aide pour la Nouvelle-Orléans 16 millions de couronnes, quelque 500 000 euros. Le calendrier de cette initiative n'est pas encore fixé. Nous allons préciser les dates lors des négociations avec la partie américaine, concrètement avec l'ambassade des États-Unis. Les moyens financiers seront libérés progressivement au fur et à mesure que les spécialistes tchèques partiront pour les États-Unis. Des négociations ont déjà eu lieu et nous agissons conformément à un accord préliminaire conclu avec la partie américaine.
MOVE, c'est le nom du Festival européen de musique, organisé conjointement par plusieurs clubs pragois et par l'agence française Gâteau Loco Productions. Au programme, de nombreux concerts de tous les styles, de jeudi jusqu'à samedi. Alexis Rosenzweig vous donne plus de détails.
C'est la première édition de ce festival international et on espère déjà que ce ne sera pas la dernière. Pendant 3 jours, l'occasion est donc donnée aux pragois de voir leur groupe ou leur DJ préféré dans les meilleures salles de la ville. Dès jeudi soir par exemple, le Palace Acropolis accueille l'artiste turco-canadien Merkan Dede, qui mêle de façon originale la tradition soufie et la musique électronique. Vendredi, la chanteuse cubano-polonaise Yvonne Sanchez fera découvrir son groove brésilien au public du bar El Puerto à Žižkov. La Batone, près de Palmovka, accueillera le championnat tchécoslovaque de DJ avant que les Américains de Cherry Hill ne montent sur scène pour baptiser leur nouvel album. Les amateurs de rock pourront quant à eux se rendre au bien nommé Rock Café pour voir sur scène d'autres Américains, les membres de Dead Sexy et le groupe français Lycosia. Et Lycosia ne sera pas la seule formation française. Samedi, toujours au Palace Acropolis, M83 se produira avant les Belges de Sold Out. Et surtout, à partir de 18h, ce sont 3 groupes venus de la région de Lyon qui viendront occuper la scène du Roxy. Hightone, Metecho et le Peuple de l'Herbe ont en effet casé la capitale tchèque dans leur grande tournée européenne, le Lyon Calling Tour, qui les emmène de Genève à Dublin, en passant par Mostar ou Varsovie. Je vous laisse donc sur un extrait du dernier album du Peuple de l'Herbe, un groupe dont nous vous proposerons l'interview dans une de nos prochaines émissions. It's a top,
Subway Adventure.
Et à présent, notre stagiaire Emmanuel Jamais de Quai vous invite à la découverte d'un monument pragois inhabituel, les casemates de Vyšehrad.
Vyšehrad est à la fois un haut lieu de l'histoire de la ville de Prague et un endroit extrêmement agréable pour une petite promenade, à l'écart des grandes attractions touristiques et du flot incessant des automobiles. Le cimetière, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, ou encore la rotonde romane de Saint-Martin en sont les points d'intérêt les plus connus. Aujourd'hui, toutefois, nous vous proposons une visite un peu à l'écart des sentiers battus. Préparez-vous à descendre dans le fascinant labyrinthe des profondeurs de Vyšehrad, jusqu'au fin fond des casemates, ces souterrains que l'on trouve sous les fortifications et qui permettent aux soldats de se déplacer dans le plus grand secret. Et qui sait si elles ne recèlent pas des trésors insoupçonnés. On remarque à peine l'entrée des casemates, située au nord, à proximité de la porte de briques. Seuls quelques touristes, férus d'histoire militaire, se décident à entrer dans le hall pour visiter la petite exposition présentant les fortifications pragoises à travers les âges. Ils sont encore moins nombreux à décider de s'aventurer dans les souterrains datant du XVIIe siècle à la découverte des passages secrets de cette forteresse. C'est pourtant bien dommage de passer à côté d'une visite aussi insolite. Guidés par le sympathique gardien des lieux, nous nous aventurons enfin dans le dédale des casemates, dont la longueur totale dépasse le kilomètre. Ce qui frappe en premier, c'est l'obscurité de plus en plus totale, ainsi que la belle dimension de ces couloirs, qui dépassent les 1,50 m de large et les 2 m de haut. Heureusement, l'électricité est arrivée jusque-là. Après avoir croisé plusieurs embranchements, tourné à gauche, à droite, à gauche, nous nous sentons véritablement dans les entrailles de la forteresse, et comme hors du temps. Soudain, nous nous retrouvons dans une immense salle souterraine, le Hall Gorlice, éclairée à son sommet par une petite ouverture qui laisse passer quelques rayons du soleil. Et là, surprise, quelques magnifiques statues se découpent dans la pénombre. Notre guide nous annonce alors qu'il s'agit tout simplement de statues originales du célèbre pont Charles qui sont entreposées là dans le but de les préserver des outrages du temps et des touristes. En fait, cette salle servait à l'origine à entreposer les munitions et des réserves de nourriture, et elle accueille aujourd'hui des manifestations culturelles pendant l'été. Au retour, notre guide facétieux décide d'éteindre les lumières, et il nous faut raser les parois pour trouver notre chemin. Dans le noir le plus total, on peut se sentir un peu angoissé, mais petit à petit, nos yeux s'habituent à l'obscurité, et nous découvrons alors un autre secret des casemates. De proche en proche, des puits de lumière relient le fond des souterrains au sommet des fortifications, situées à une dizaine de mètres plus haut. Ils permettaient d'acheminer les munitions pendant les batailles et d'éclairer les couloirs de cette lumière fantomatique si particulière. Enfin, nous voyons le bout du tunnel, et il est malheureusement déjà temps de reprendre contact avec le monde extérieur, après cette expédition étonnante dans les tréfonds mystérieux de Prague.
C'est tout dans ces faits événements, mais le programme sur Radio Prague continue.
Chapitre de l'histoire tchèque. David Allon.
Il y a 66 ans, le 15 septembre 1939, naissait le protectorat de Bohême-Moravie. Au-delà de l'occupation allemande, cette date inaugure une période de totalitarisme qui ne finira qu'en 1989. Exception faite de 3 années décisives, entre 1945 et 1948. Or, en y revenant, un constat s'impose, la Tchécoslovaquie ne devait pas faire partie de la sphère d'influence soviétique. Bien sûr, l'ouverture des archives soviétiques de l'époque permettra de répondre avec certitude à cette question, mais de nombreux historiens penchent en ce sens. Si la rupture officielle entre les mondes occidentaux et communistes a lieu en 1947, c'est bien le coup de Prague, en février 1948, qui en marque le premier acte concret. Car la Tchécoslovaquie est sans doute le seul pays du bloc qui n'était pas censé y entrer. Dès 1941 et l'invasion allemande, Staline songe à se construire un glacis défensif après la guerre, avec les territoires perdus après l'invasion allemande. Il pense surtout aux trois pays baltes, à la Bukovine en Roumanie et à une partie de l'Est polonais. Il obtient un gain de cause en 1943 à la conférence de Téhéran, à laquelle il participe aux côtés de Roosevelt et de Churchill pour préparer l'après-guerre. Précisons qu'il s'agit d'abord chez Staline d'une démarche défensive plus que d'une intention préméditée d'impérialisme. Plus les anglo-saxons tardent à ouvrir un second front en France, plus l'URSS se retrouve en position de force en Europe. En 1944, le rouleau compresseur russe atteint l'Ukraine, la Biélorussie et la Pologne jusqu'à la Vistule. Dos au mur, Churchill, qui craint pour ses zones d'influence en Europe centrale et orientale, passe en octobre les célèbres accords des pourcentages avec Staline. Non officiels, ces accords qui n'en sont pas prévoient une influence soviétique à 90% en Roumanie, 75% en Bulgarie et à 80% en Hongrie. Possédant une toute petite bande de frontières avec l'URSS, la Tchécoslovaquie n'est pas un enjeu vital pour la sécurité russe. Elle n'est même pas mentionnée dans les accords. La libéralisation du pays explique sa spécificité par rapport à ses voisins. Lorsque les soviétiques pénètrent en Slovaquie en 1944, ils ne la considèrent pas comme un satellite de l'Axe, mais comme une partie intégrante de la Tchécoslovaquie. Staline établit une alliance avec Beneš et ne compte pas mettre en place d'autorités concurrentes comme en Pologne. Clé de voûte du dispositif sécuritaire russe, la Pologne est bien la priorité absolue pour Moscou. La conférence de Yalta, qui réunit Américains, Russes et Anglais 3 mois avant la victoire, l'illustre bien. Déterminé, Staline obtient la formation d'un gouvernement en majorité communiste en Pologne. Contrairement à un mythe répandu par un général de Gaulle frustré de ne pas avoir été invité, la conférence de Yalta n'a pas consacré la division de l'Europe en zones d'influence. Au contraire, elle a tout fait pour l'éviter. Et si l'URSS remporte une grande victoire diplomatique, Roosevelt obtient en contrepartie sa signature de la Déclaration sur l'Europe libérée. En juin 1945, se réunissent à San Francisco les futures Nations Unies, au nombre de 50. Parmi les pays d'Europe centrale et orientale, la Tchécoslovaquie est le seul qui incarne réellement l'esprit de Yalta. Le récent programme de Košice proclame l'unité des forces démocratiques, y compris les communistes, derrière le président Beneš. Si en Tchécoslovaquie et en Autriche, l'esprit de Yalta est donc respecté par les Russes, il n'en est pas de même en Roumanie, en Bulgarie ou en Pologne. Staline se trouve face à un cruel dilemme. Dans les pays limitrophes à l'URSS et convoités, les partis communistes sont très faibles. Au contraire, en France, en Italie et en Tchécoslovaquie, le PC représente une force électorale de première importance et Staline n'hésite pas à modérer ses ardeurs. On peut penser que jusqu'au coup de Prague, en 1948, il ne pense pas vraiment à intégrer la Tchécoslovaquie dans la sphère d'influence soviétique. Bien sûr, quand l'occasion se présentera, il la saisira. Novembre 45 et mai 46 voient des élections libres se tenir en Tchécoslovaquie. Les communistes s'imposent avec 38% des voix. Mais le refus d'accepter l'aide économique américaine dans le cadre du plan Marshall choque la population et les élections prévues pour 1948 annoncent un net déclin du vote rouge. C'est à ce moment-là que les communistes tchèques décident, avec l'aval de Moscou, de passer à l'action et de tenter un putsch. Comment comprendre que la Tchécoslovaquie tombe d'elle-même dans la corbeille soviétique? Il y a bien sûr les erreurs tactiques de Beneš, qui pense pouvoir faire le lien entre les États-Unis et l'URSS. Et puis il y a le directoire des grands, qui semble se résigner à partir de 1947 à la division du monde de l'Europe en zone antagoniste. Triste ironie de l'histoire, pour un pays qui aurait pu prétendre, après-guerre, à un rôle équivalent à celui de la France. Rappelons que les unités tchécoslovaques exilées se sont illustrées avec brio dans les campagnes de France et d'Angleterre. Plus de 170 pilotes, marins et mécaniciens servent dans l'armée française en 1940. Quant aux aviateurs tchécoslovaques enrôlés dans l'armée britannique, ils détruisent environ 200 appareils ennemis en 1941-42. En 1948, Staline décroche le gros lot. La Tchécoslovaquie est pratiquement épargnée par la destruction de la guerre. Bien plus, c'est le seul pays en Europe à avoir développé sa puissance industrielle. Un cadeau que le maître du Kremlin avait à peine souhaité.
Le programme en langue française de Radio Prague Onde Courte se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia.